Il y a bien sûr beaucoup de thèmes qu'on peut, avec Juifs pour Jésus, on parle beaucoup de l'évangélisation des Juifs, on essaye aussi beaucoup de sensibiliser les chrétiens à parler de Jésus à des Juifs. On ne parle pas à des Juifs de Jésus comme à des catholiques. Le contexte n'est pas du tout le même. Et surtout, on commence par créer des liens d'amitié. Parce qu'il y a un passé historique entre Juifs et chrétiens qui est catastrophique. Alors, chrétiens entre guillemets, mais eux ne font pas la différence. Alors, avant de parler de Jésus, il faut commencer par avoir des paroles d'amitié. « Consolez, consolez mon peuple », dit la parole. Et après les événements du 7 octobre, si vous connaissez quelqu'un qui est juif, la meilleure chose que vous puissiez lui faire, c'est d'avoir des paroles de consolation, des paroles amicales, des paroles d'amour. On prie pour vous, on est triste pour ce qui vous est arrivé, on pense à vous, on est avec vous de tout cœur. Si vous voulez commencer par parler de Jésus, ça ne marchera pas. Parce que, comme j'ai dit, il y a un passé. Alors, justement, on va parler de l'histoire. Parce que vous savez, Jésus, quand il arrive, il y a un peu plus de 2000 ans, il arrive dans un contexte politique, économique, religieux. Et tout ça, ça compte. La crucifixion, elle s'inscrit dans un contexte historique de l'époque. Quand Jésus dit, enfin quand il est dit dans la parole, par exemple, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, ça ne tombe pas comme ça. Il y a un contexte historique. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne comprend pas bien si on ne comprend pas l'histoire. Et on ne sait pas dans quel contexte Jésus est là. Alors ça n'empêche pas d'être un bon chrétien, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on ne sait pas dans quel contexte politique, économique, religieux, toutes ces choses se passent. Et quand Jésus arrive, il ne démarre pas à partir de rien. Il y a un passé. Il y a un passé religieux. Il y a Moïse, il y a les 10 commandements, il y a la sortie d'Égypte, il y a ce qu'on va voir ce soir, il y a tout un contexte. Jésus, il n'arrive pas... Alors, je sais que sur notre calendrier, quand Jésus arrive, on démarre à zéro. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Hein ? D'ailleurs, on est en 5785, je crois, pour les Juifs. Hein ? Donc, il y a autre chose avant. Hein ? Et Jésus arrive dans un contexte. Et puis, il se trouve que la Bible... Ce n'est pas un livre historique, la Bible. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est-à-dire que le but de la parole de Dieu n'est pas de faire de vous des historiens et des historiennes. Il y a de l'histoire dans la Bible, mais ce n'est pas toujours très facile de comprendre l'histoire d'Israël uniquement à partir de la parole de Dieu. Et il y a bien sûr des livres historiques, des livres d'histoire, écrits par des historiens qui nous aident quand même à comprendre certaines choses. Une connaissance de l'histoire nous permet de mieux comprendre la Bible, parce qu'il y a bien sûr un cadre. Par exemple, quand on connaît certaines choses, on peut un peu mieux comprendre pourquoi il est dit « au temps marqué par Dieu, Christ est mort pour nous ». Ça veut dire qu'il y a un contexte favorable. Mais pour réaliser qu'il y a un contexte favorable, il faut comprendre le contexte historique, politique de l'époque. Alors avant de mieux comprendre certains passages de la Bible, il faut une histoire, une connaissance de l'histoire juive. Et puis, si vous êtes amené un jour justement à parler avec des juifs et que vous connaissez leur histoire, c'est encore beaucoup mieux. Alors, l'histoire vraiment du peuple juif commence en fait avec Abraham. Abraham qui se marie avec Sarah. Eh oui, Abraham qui devient Abraham. Et entre Abraham et Abraham, il y a la lettre « He » en hébreu qui représente le souffle de Dieu. Et d'ailleurs, Sarai, avec un « i » tréma à la fin, devient Sara, avec la même lettre à la fin, le « He » qui représente le souffle de Dieu. Et ça aussi, c'est intéressant sur le plan spirituel. Donc Abraham qui se marie avec Sarah, Abraham qui a deux enfants qui s'appellent Isaac et Ismaël. D'accord ? Mais si on reste sur la lignée spirituelle, il n'y a vraiment que Isaac qui compte. D'ailleurs, vous remarquerez qu'un jour Dieu dit à Abraham, « Donne-moi ton fils, ton unique. » Tiens, bizarre, il y en a deux, non ? Ah ouais. Isaac qui se marie avec Rebecca, en hébreu Rivka. Et ils vont avoir deux enfants, Jacob et Ésaü, et celui qui nous intéresse dans la lignée spirituelle, c'est Jacob. Jacob qui va avoir combien de femmes ? Alors, 4. Rachel, Léa, oui, c'est raisonnable. Et puis les deux servantes, Zilpa et Bilha. D'accord ? 4 femmes. Alors, c'est vrai que celle qui compte vraiment, c'est Léa et Rachel. Et même, je vous dirais, même dans la tradition juive, celle qui compte vraiment, c'est Rachel. Parce que Léa, il ne la voulait pas. Ce n'était pas celle qui est prévue. D'ailleurs, aujourd'hui, dans un mariage, alors j'ouvre la parenthèse, dans un mariage juif, quand la mariée arrive, elle est voilée, et le marié, il soulève le voile pour voir si c'est bien elle, si ce n'est pas une autre. C'est important, histoire de ne pas se tromper le jour du mariage. Alors, c'est symbolique, mais ça vient de là. Ça vient de là. D'ailleurs, à l'époque, Jacob aurait bien fait de faire pareil. Hein. Alors, 4 femmes, combien de fils ? Oui, 12 fils. Vous savez, quand vous parlez à des juifs qui ont étudié, ils vous disent quelle femme a eu quel fils et dans quel ordre ils sont nés. Oui, aïe, 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 aïe. Ça, c'est difficile. Hein. Alors, celle qui en a eu le plus, c'est Léa. Elle en a eu, sur les 12, elle en a eu 6. Rachel va en avoir 2. Zilpa va en avoir 2. Bilha va en avoir 2. Alors, voilà. 12. Les 12 enfants vont donner les noms aux 12 tribus d'Israël. Oui et non. Parce que il n'y a pas la tribu de Joseph. Il n'y a pas une tribu qui s'appelle Joseph. Pourquoi n'y a-t-il pas de tribu qui s'appelle Joseph ? Parce qu'il aura en fait 2 tribus de ses 2 fils qui sont Éphraïm et Manassé. Alors vous allez me dire, mais s'il y a 12 avec Joseph, mais que Joseph en a 2, ça fait 13. Donc il devrait y avoir 13 territoires. Mais il n'y a pas 13 territoires, il y a 12 territoires. Pourquoi ? Oui, alors plus précisément, Lévi n'ont pas de territoire. La tribu de Lévi n'a pas de territoire. Pourquoi Lévi n'a pas de territoire ? Parce qu'ils sont responsables du sacerdoce, du service de Dieu, de l'enseignement de la population, et donc ils vont être répartis sur toutes les tribus. Et ils n'ont pas de possession. Parce que quand on sert Dieu, on n'a pas de possession. D'ailleurs, dans le judaïsme, on ne possède rien, et l'une des meilleures preuves qu'on ne possède rien, c'est qu'en hébreu, le verbe avoir n'existe pas. Vous reprenez un dictionnaire de grammaire hébreu, il n'y a pas de verbe avoir en hébreu, parce qu'avec Dieu, on ne possède rien. Il y a un lien spirituel entre l'hébreu et le spirituel. Quoi. L'hébreu, il y a un côté spirituel dans l'hébreu. De même, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le verbe « être » au présent de l'indicatif en hébreu n'existe pas. Il existe au passé et au futur, mais pas au présent. Quand on dit en hébreu « je suis là », on dit « je là ». Pourquoi ? Parce que dans l'hébreu, dans la pensée hébraïque, le présent, ça n'existe pas. Le temps de dire « je suis là », c'est déjà passé. Donc 12 fils, les petits-fils, Éphraïm et Manassé. Alors, une histoire assez rapide. On a donc les 12 fils. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je ne vais pas rentrer sur l'histoire de Joseph parce qu'il y en aurait pour toute la soirée. Joseph a été vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte. Par toute une histoire que vous connaissez, j'espère, il se retrouve le bras droit de Pharaon. Et il permet, pour sauver sa famille de la famine, etc., à toute sa famille de s'établir en Égypte. Ça se passe très très bien parce qu'au début, ça se passe très bien entre Joseph et le Pharaon, sauf que ça va changer. Et au bout d'un moment, le peuple juif va se retrouver esclave. Alors rapidement, pourquoi ? Eh bien parce que le Pharaon commence à avoir peur, ils deviennent nombreux, ils risquent de devenir des ennemis, et ils commencent à être injustement asservis. Il n'y a aucune raison de les asservir, c'est diabolique. Ils vont être asservis pendant à peu près 400 ans. Et là arrive bien sûr le plus important personnage de l'histoire du judaïsme, aussi important pour les juifs que nous, Jésus, pour les chrétiens, c'est Moïse, Moshe. Moïse, pour les juifs, est aussi important que pour nous, Jésus. C'est énorme. C'est énorme. Alors, bien sûr, les 10 plaies d'Égypte, la délivrance, et ils vont tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. Et puis, vont arriver les conquêtes de Josué. Alors, on va essayer de commencer à passer. Conquête de Josué, on est à peu près 1400 ans avant Jésus. Conquête de Josué, donc la mort de Moïse, les conquêtes de Josué. Alors là, ouais, dans l'autre sens, d'accord. Alors ici, oui, à droite, d'accord. Ici, donc c'est juste, alors c'est légèrement flou, je ne sais pas pourquoi. Vous avez Israël qui est ici. Voilà, avec la Syrie au nord, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, donc ça c'est quand même actuel, mais c'est pour vous situer. C'est tout petit, hein, c'est tout petit, petit, Israël. C'est le moindre de tous les peuples, hein, dit la parole de Dieu. Je le dirige vers où? Ah, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le résumé de ce que j'ai dit. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, qui va devenir Israël. Les quatre femmes. Et là, vous avez les 12 fils. Et j'ai mis la naissance, l'ordre dans lequel ils sont nés, du premier jusqu'au 12e. Ça commence par Ruben et ça termine par Benjamin. Et donc Joseph avec Éphraïm et Manassé. Ah, pardon. Voilà. Ah non. Oui, voilà. Voilà, ça, voilà. Là, vous avez la répartition des 12 tribus. Manassé a été divisé en deux à cause du Jourdain. Manassé, vous avez Manassé Est et Manassé Ouest. Donc vous retrouvez les 12 tribus, Judas, Siméon, Ruben, Benjamin, Dan, Éphraïm, Manassé, Issachar, Zabulon, Aser, etc. Donc ça, c'est la répartition des 12 tribus d'Israël. Non, ça va. C'est parce que ça met un certain temps. Je pensais que ça allait être très rapide. Ça met. Histoire de Joseph. Établissement du peuple en Égypte. 400 ans en Égypte. 40 ans dans le désert. Conquête de Josué, moins 1400. Installation en terre promise après les conquêtes de Josué, moins 1250. On arrive au temps des juges. Gédéon, Samson, Déborah, Jephté, etc. Le temps des rois. Saül, David, Salomon. Mort de Salomon vers moins 931. Et là, il y a un événement très important et très grave. C'est la division du royaume d'Israël en deux royaumes. Royaume du Nord, qu'on va appeler Israël. Alors vous remarquez au passage, je ne dis pas Israël, mais je dis Israël. Et oui, parce qu'en français, et c'est comme ça qu'on doit le dire, en français, un S se prononce Z quand il est entre deux voyelles. Et jusqu'à preuve du contraire, quand vous dites Israël, le S n'est pas entre deux voyelles. Et on dit Israël parce que elle, c'est Dieu. C'est en fait comme si c'était deux mots. Hein. Donc division. Alors, royaume du Nord, qu'on va appeler Israël. Capitale, au début c'est Sichem, ensuite Samarie. 10 tribus forment Israël, avec Jéroboam. C'est la division entre Roboam et Jéroboam à la mort de Salomon. Royaume du Sud, qu'on appelle le royaume de Juda, qui comporte Juda et Benjamin. Benjamin se trouve au milieu, mais on parle du royaume de Juda avec, bien sûr, pour capitale, Jérusalem. Dès la rupture et par la suite, des hommes de toute tribu vont vouloir aller au royaume de Juda. Pourquoi, à votre avis ? C'est écrit dans la parole. Il y a quelque chose qui les intéresse dans le royaume de Juda, et à Jérusalem en particulier. Le temple de Salomon, oui, pas que, le temple de Salomon. Et rendre un culte à l'Éternel sans le temple, en plus il y a les grandes fêtes, où tout le monde doit se déplacer, les fêtes de pèlerinage, où les gens se déplacent. Et donc le temple, ça attire les Juifs qui veulent aller adorer au temple. Le temple de Salomon, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et alors, Jéroboam, ça lui pose un problème, ça. Parce qu'il dit, ouïaïa, ils vont tous partir là-bas si ça continue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un faux culte à l'Éternel Et ce sera bien sûr un péché très grave de la part de Jéroboam. Et à ce moment-là vont commencer donc une succession des rois entre les rois de Juda et les rois d'Israël. Et donc à chaque fois, vous allez avoir un tel est roi de Juda, un tel est roi d'Israël. Et évidemment, dès le début, ils ont voulu se faire la guerre. Et Dieu a dit non, vous n'allez pas vous faire la guerre. Mais malheureusement, par la suite, ça va quand même arriver. Non ? Oui ? On commence ? Voilà. Royaume d'Israël au nord, vous voyez marqué Samarie. Alors avant que Samarie, c'était Sichem. Et en dessous, royaume du sud, Juda, avec pour capitale Jérusalem. Donc là, vous avez les deux royaumes. Ça commence mal et ça va très mal finir. Première alerte, lorsqu'il y a un certain roi d'Égypte qui s'appelle Shishak, qui va piller les trésors du roi et du temple, on est à peu près en moins 924, à l'encontre du royaume de Juda. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, mais vous l'avez dans 1 roi 14, 25 et 26. Shishak, roi d'Égypte, va piller le temple. Ensuite, le royaume de Juda va avoir des difficultés avec Israël et il ne va pas trouver mieux à faire, le royaume de Juda, que de faire appel à Ben-Hadad, roi de Syrie, pour vaincre Israël. Ça, vous l'avez dans 1 roi 15, verset 16 à 20. Il faut s'imaginer, la Syrie, c'est loin d'être des amis du peuple juif. Et voilà que le royaume de Juda, qui est menacé, va faire appel à Ben-Hadad, qui est vraiment un ennemi, qui sera un ennemi, mais on arrive à s'arranger pour vaincre Israël. Ça ne va pas vraiment marcher, mais bon, ça va quand même être fait. Par la suite, il va y avoir le roi Akab, roi d'Israël, qui va remporter des victoires contre les Syriens, donc il y a Ben-Hadad, et qui va vouloir même à un moment donné faire une alliance avec Josaphat, roi de Juda, pour vaincre les Syriens. Alors qu'avant, Juda avait pris les Syriens avec eux pour vaincre Israël. Alors vous imaginez un peu l'ambiance dans tout ça. Et en fait, il y aura une victoire des Syriens. Les guerres vont continuer sous les successeurs de Ben-Hadad, roi de Syrie, avec un certain Hazaël, successeur de Ben-Hadad. Hazaël, roi de Syrie, va attaquer le royaume d'Israël, prendre des territoires, ça vous l'avez dans 2 rois 10, 32. Et il nous est dit dans la parole, en ce temps-là, l'Éternel commença à entamer les territoires d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel commença à entamer les territoires d'Israël, donc avec Hazaël, successeur de Ben-Hadad, roi de Syrie. Le successeur de Hazaël s'appelle Retsin, roi, on le trouve tout ça dans la parole, hein, roi de Syrie qui va attaquer Juda. Le roi de Syrie va attaquer Juda et il va se faire aider pour attaquer Juda du roi d'Israël. C'est pas mal. Qui s'appelle Pekach. Pekar, Pekach, roi d'Israël. Et Akaz, qui est roi de Juda, va, pour se défendre, demander l'aide du roi d'Assyrie. Alors vous avez le royaume d'Israël qui fait appel au roi de Syrie pour attaquer Juda. Et Juda, pour se défendre, le royaume de Juda fait appel au roi d'Assyrie. Donc vous avez les Syriens et les Assyriens, qui sont tous des gens qui n'aiment pas Israël, mais qui y trouvent là quelque intérêt personnel. Akaz, roi de Juda, donc, demande cette aide. Et finalement, Akaz, avec l'aide des Assyriens, va vaincre Retsin, le roi de Syrie. Et Osée, qui est roi d'Israël, à cause de cette défaite, parce que lui, il est associé à Retsin qui a perdu, entre guillemets, il va être soumis au roi d'Assyrie. Donc à cause de ça, le roi d'Israël, Osée, se retrouve soumis au roi d'Assyrie, qui s'appelle, alors ça on le trouve dans 2 rois 17, 1 à 3, qui s'appelle Salmanazar. Tout ça, vous l'avez. Seulement, comme je le disais, la Bible n'est pas vraiment un livre d'histoire. Ce qui fait qu'on a un peu du mal à retrouver tout ça en réalité. Oui, non. Une deuxième fois. Voilà. Alors, conflit multiple entre Judas et Israël. Judas et Israël confrontés aux Syriens, Ben-Hadad puis Hazaël. Le roi d'Assyrie, Salmanasar, vainqueur de la Syrie. Moins 722, roi d'Assyrie, vainqueur sur Israël. Chute de Samarie, déportation. Alors là, en moins 722, il se passe une chose, c'est que le premier grand empire qui attaque vraiment, c'est l'Assyrie. L'Assyrie. Ils vont attaquer en moins 722, c'est la chute de Samarie, de la capitale d'Israël, après un siège de 3 ans. C'est long, 3 ans de siège. Victoire de Salmanasar, roi d'Assyrie. Salmanasar, il aura des successeurs. Il y en a un, vous n'avez pas entendu parler, il n'est pas dans la parole, c'est Sargon II. Par contre, un peu plus tard, on va trouver son successeur encore, Sennachérib. Ou Sennachérib. Sennachérib, ça vous dit quelque chose, Sennachérib ? Avec son chef d'armée qui s'appelle Rabshaké. Eh oui. Donc c'est la chute du royaume du Nord. C'est terminé. Il n'y aura plus jamais le royaume d'Israël à partir de moins 722. Déportation des 10 tribus vers la Mésopotamie, la Médie. Inversement, des gens du royaume d'Assyrie vont être emmenés en Israël, s'installer en Samarie. Ça, vous le trouvez dans 2 rois 17, 5 à 7, 2 rois 17, 20 à 24. Ça va donc entraîner un mélange de juifs et d'assyriens. Des juifs se retrouvent dans le royaume d'Assyrie, des assyriens sont amenés en Israël, et ça va faire aussi des communautés juives. Alors, il y aura des mélanges comme toujours, mais il y aura quand même des communautés juives qui vont s'installer en Assyrie. Donc c'est la fin du royaume d'Israël avec l'empire assyrien. Pendant ce temps-là, pour le royaume de Juda, ça va encore à peu près, plus pour très longtemps. Et celui qui règne à ce moment-là sur le royaume de Juda, c'est Ézéchias. Et Ézéchias va se retrouver confronté, lui aussi, à Sennachérib, roi d'Assyrie, un peu plus loin, et son chef d'armée, Rabshaké. 2 Rois 18-13. Je ne lis pas, parce que si je lisais à chaque fois, on n'en finirait pas. Et Ézéchias, il va crier à l'Éternel. Amen. Et il va être délivré. Et la délivrance sera annoncée par Ésaïe dans 2 Rois 19-1 à 7, 2 Rois 19-35-36. Par contre, le successeur d'Ézéchias, c'est un homme qui ne va vraiment pas marcher avec Dieu et qui s'appelle Manassé. Aïe, aïe, aïe. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ça va commencer à tourner au vinaigre sur le royaume de Juda. Pourtant, il y a un roi qui est pas mal après et qui s'appelle Josias. Mais Josias, on ne sait pas très bien pourquoi, il va faire une erreur énorme. Alors que le roi d'Égypte, Néco, pharaon Néco, veut attaquer la Syrie. Après tout, pour Israël, c'est pour Juda plutôt, c'est pas mal puisque c'est l'ennemi. Il pourrait se dire, ben tiens, c'est bien, le roi d'Égypte, pharaon Néco, va attaquer les Assyriens, chouette. Il s'occupe de mes ennemis, pendant cela, je suis tranquille. Eh ben non. Voilà que Josias, il se met en travers de la route du pharaon Néco et il veut le combattre. Et Néco va lui dire, tu ne devrais pas faire ça parce que je viens de la part de l'Éternel. Pousse-toi, retire-toi et laisse-moi faire. Josias ne veut rien savoir et il attaque. Et ça va mal se passer. Josias est vaincu. Et pour un peu de temps, eh bien, pharaon Néco, l'Égypte, aura un ascendant sur le royaume de Juda. Là, on est à peu près en moins 605. En général, il faut le faire deux fois. Alors, empire assyrien qui est là-haut et qui englobe, bien sûr, Israël. Nous, on s'intéresse surtout à Israël. Mais un autre royaume va vaincre l'Égypte. Donc l'Égypte a un ascendant, elle a mainmise sur le royaume de Juda à cause de Josias qui est allé vouloir combattre pharaon Néco et ça s'est mal terminé. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a un ennemi qui se lève et qui va battre l'Égypte à une bataille qui est célèbre pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est la bataille de Carchemish. Et à la bataille de Carchemish, il y a un nouveau royaume montant qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est le royaume de Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone. Et le royaume de Babylone va balayer l'Égypte. Et là, en dessous, vous avez donc le royaume, l'empire de Babylone avec Nebuchadnezzar. Mais, comme il est écrit dans la parole, Nebuchadnezzar monta contre Juda. 2 Chroniques 36:5-7. Et là, malheureusement, ça va mal finir. Il y a une première déportation de juifs dans le royaume de Babylone, enfin des juifs de Juda cette fois-ci. C'est la première fois. Avec, entre autres, la déportation du prophète Daniel. Moins 598, déportation de Juda vers Babylone d'un deuxième contingent, avec un certain Joachim qui s'est rendu lors du siège de Jérusalem. Deuxième déportation, ça c'est dans 2 Rois 24:10-16. Mais ça va pas encore trop mal. Le problème, c'est que Nebuchadnezzar va permettre à un juif de commander, d'être roi, c'est Sédécias. Ça aurait pu se passer relativement bien si Sédécias s'était bien comporté. Mais malheureusement, Sédécias va se révolter contre Nebuchadnezzar. Et là, c'est la catastrophe. C'est la chose qu'il ne fallait surtout pas faire. Troisième déportation, destruction de Jérusalem, destruction totale du temple, c'est terminé pour le royaume de Juda. Et on est à peu près en moins 586, donc il y a à peu près 120 ans entre la fin du royaume du Nord, royaume d'Israël, et la fin du royaume du Sud, royaume de Juda. Donc moins 610, victoire de Pharaon Necho sur Josias, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monte contre Juda. Début des déportations des Juifs vers Babylone. Moins 586, révolte de Sédécias. Destruction du temple et des murailles de Jérusalem. 70 ans de captivité. Fin du royaume de Juda libre. Vous savez, quand les Juifs disent « nous n'avons jamais été esclaves de personne », ils ont été esclaves 400 ans en Égypte. Après, c'est l'empire assyrien. Après, c'est l'empire babylonien. Après, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Après, c'est l'empire grec. Et après, c'est l'empire romain. À part ça, pas de problème. Conformément à la prophétie de Jérémie, cette captivité, donc Jérémie 25:11-12, cette captivité va durer 70 ans. Après quoi l'empire babylonien, on le retrouve dans 2 Chroniques 36:20, va être balayé par un empire plus puissant que lui, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Ça va de moins 540 à moins 331. Ça va de Cyrus Ier à Darius III. Cyrus et Perse, Darius et Mède, mais bon, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. C'est le début d'une dynastie de rois des Mèdes et des Perses qu'on appelle, alors ça c'est pour les amoureux d'histoire, la dynastie des Achéménides ou Achéménides. Ça vous dit quelque chose? Non? Aïe, aïe, aïe. C'est annoncé par Ésaïe, c'est annoncé par Jérémie. Et cet homme, le premier, Cyrus, il est important. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toutes mes volontés. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Cyrus est touché par Dieu. Et il va donner la possibilité aux Juifs de rentrer dans leur pays et de reconstruire Jérusalem. Et il va leur donner tous les moyens pour y parvenir. Et il est appelé donc à donner à Israël, enfin c'est le royaume de Juda, à ces gens, une grande liberté. Et il va même leur ordonner, en quelque sorte, ordonner la reconstruction du temple. Moins 538, une première vague de juifs vont rentrer. Alors ça, c'est les histoires de Esdras et Néhémie. Oui, on arrive à l'Empire perse. Voilà l'Empire perse. Donc, dynastie des rois achéménides de Cyrus Ier à Darius III. Première vague de juifs qui rentre à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel. Ça vous dit quelque chose, hein? Restitution des ustensiles pour le temple, on se trouve ça dans Esdras. C'est un temps de réveil, un temps de restauration, de retour à Dieu et la reconstruction du temple. Amen, c'est formidable. Vous imaginez un peu, pour ceux qui étaient religieux, entre guillemets, au sens positif, hein, quand ils ont posé les pierres pour la reconstruction du temple, ça faisait 70 ans. Seuls les plus vieux étaient encore en vie. Les plus jeunes n'avaient jamais vu le temple de Salomon. Moins 458, deuxième vague sous Esdras, qui sont autorisés à conduire un nouveau groupe sous Artaxerxès. Ça, vous l'avez dans la parole de Dieu, Esdras chapitre 7. C'est à cette époque, sous Artaxerxès, que Néhémie est autorisé à s'occuper aussi de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Mais beaucoup de Juifs vont rester dans le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses. Ils y forment des communautés, c'est vrai, des communautés juives, hein, en gardant leurs traditions. Mais ils ont accédé, certains, à des postes élevés, ils ont un certain confort de vie, ils ont fait des maisons, tout en conservant leur spécificité sur le plan religieux, ce qui fait quand même qu'une grande majorité de Juifs ne vont pas rentrer dans leur pays. Eh oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près 50 ans après le décret de Cyrus autorisant tous les Juifs à rentrer dans leur pays, il y a un certain roi qui s'appelle Assuérus, avec une reine qui s'appelle, alors avant Esther, Vasti. Et Esther devient reine. Et alors que le peuple juif ne devrait plus être dans le royaume des Mèdes et des Perses, parce que quand même c'est la terre donnée à Israël, là où ils doivent, et en plus ils ont reçu l'ordre d'y retourner. Seulement reconstruire Jérusalem, les murailles, le temple, c'est plus difficile que de rester confortablement là où on est, surtout si ça ne se passe pas trop mal. Mais il y a un certain Aman qui se lève. Et qu'est-ce qu'il veut, Aman ? La destruction du peuple juif. Au passage, ça se fête aujourd'hui avec la fête de Pourim dans le peuple juif, et c'est hier et aujourd'hui. C'est la fête de Esther, ou la fête de Pourim, qui veut dire la fête du sort. Donc, ce qui veut dire, alors bien sûr qu'il y a tout un miracle, je vous ramène bien sûr à la lecture de l'histoire de Esther, ça veut dire quand même qu'ils ont failli être entièrement exterminés par Aman, avec l'accord du roi Assuérus qui ne connaissait pas toute l'histoire, mais que ça ne serait pas arrivé s'ils n'étaient pas dans le royaume des Mèdes et des Perses où ils n'avaient plus rien à faire, s'ils étaient dans leur pays que Dieu leur a donné. Eh oui. Donc, attention. En moins 334, alors, moins 540, dynastie achéménide, ça c'est les Médo-Perses. Première vague de retour avec Zorobabel, reconstruction du temple. Moins 458, deuxième vague sous Néhémie, reconstruction des murailles. Beaucoup de Juifs restent en Babylonie ou dans le royaume des Mèdes et des Perses. Lire Esdras et Néhémie. Moins 331, un empire encore plus puissant se lève. C'est l'empire grec, dirigé par Alexandre III, qu'on appelle Alexandre le Grand. Il ne va pas vivre très vieux, Alexandre le Grand, il va mourir jeune. Roi de Macédoine. Alors la Macédoine, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas très simple, la Macédoine s'est partagée entre la Bulgarie, la Grèce et la Yougoslavie. C'est à peu près ça, la Macédoine. Parce que pour nous, on connaît la Macédoine de légumes, mais bon, la Macédoine, on ne connaît pas trop, hein. Il va balayer l'armée perse. Il balaye l'armée perse. Il est très puissant. Il arrive en Égypte. Et en Égypte, il va fonder, Alexandre le Grand, la ville de Alexandrie. Eh oui. Alexandrie, Alexandra. Non, ce n'est pas la même chose. Quoique ça vienne là, la chanson. Il va conquérir Israël aussi. Il va conquérir l'actuel Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak et même l'Inde. Et donc, le royaume de Juda, enfin ceux qui sont revenus, il n'y a plus maintenant vraiment royaume de Juda, royaume d'Israël, il y a ceux qui sont revenus, mais qui sont du royaume, à l'origine de la deuxième de la déportation du royaume de Juda, et pas des 10 premières tribus qui ont été dispersées. C'est la fin donc de l'empire médo-perse, le début de l'empire grec. Sous la dynastie des rois Achéménides, Alexandre va comme sous la dynastie des rois Achéménides, parce que ça se passe pas trop mal tant que les Juifs, enfin ceux qui sont conquis, ne se révoltent pas. Ça se passe relativement bien. En fait, ils ont compris, tous ces gens qui dirigeaient à l'époque, que si on laissait faire les populations selon leurs mœurs, leurs pratiques, qu'on les laissait, ça se passait bien, mais que si on voulait les commander de façon trop tyrannique, ça risquait de créer des révoltes. Donc Alexandre III va demeurer très magnanime, tolérant envers les Juifs, qui auront toute liberté de pratiquer leur culte, à condition qu'il n'y ait pas de révolte. Ils seront même dispensés d'impôts et de tributs l'année sabbatique. Parce que l'année sabbatique, il n'y a pas de récolte. Et il en a tenu compte. C'est bien. Par contre, Alexandre III ne traite pas de la même façon les Samaritains qu'il ne considère pas comme étant des Juifs. Et il faut dire qu'en Samarie, il commence à y avoir des gros mélanges entre Juifs et non-Juifs. Et puis aussi un culte, on en parlera après. À la mort d'Alexandre III, il n'y a pas de successeur, parce qu'Alexandre le Grand n'a pas d'enfant, et son royaume va être divisé en quatre. Ça, on le retrouve dans Daniel. Les quatre petites cornes qui s'élèvent à la place d'une corne. La corne, c'est Alexandre, c'est l'Empire grec, qui est supprimé, et quatre cornes qui s'élèvent, tout ça, on le trouve dans Daniel. Ces quatre cornes de Daniel, c'est quatre dynasties. La première qui est connue pour ceux qui font de l'histoire, c'est la dynastie des Ptolémées. Ça vous dit quelque chose ? C'est la dynastie des Ptolémées qu'on appelle aussi les rois Lagides. Les Lagides. Ils vont prendre, ça nous intéresse, parce que c'est eux qui vont prendre l'Égypte et Israël. Donc maintenant, je reviens au nom Israël, mais ce n'est pas le royaume du Nord comme avant. Hein. Deuxième, c'est Séleucos, qui forme la dynastie des Séleucides. Ils prennent la Babylonie, la Syrie, la Perse. Le troisième, c'est Cassandre qui prend la Macédoine et Lysimaque et ensuite son successeur Antigone qui prend l'Asie mineure et la Thrace. Ça, vous l'avez dans Daniel, chapitre 8, versets 3 à 8, Daniel 8, 20 à 22, tout ça, c'est écrit. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est Israël qui est dirigé par la dynastie des rois Lagides, les Ptolémées, ça va bien se passer dans un premier temps, malgré les impôts, les taxes, il y a quand même toujours la liberté. La liberté pour les Juifs de faire ce qu'ils veulent. Ils sont considérés comme un groupe qui dépend du temple, on les laisse faire, avec leurs propres lois, et ils ont même un grand prêtre qui les représente, etc. C'est une époque où les Juifs vont aussi s'installer dans différents points du royaume, à Antioche, par exemple, ça vous dit quelque chose, à Laodicée, c'est là qu'ils vont aller à Laodicée, à Alexandrie, etc. Et ils vont former des colonies et ils exercent toutes sortes de métiers. Le successeur de Ptolémée Ier, c'est Ptolémée II. Mais Ptolémée II dit Philadelphe. Alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ce Ptolémée II Philadelphe. Alors je ne sais pas... On va rester là pour l'instant. Ptolémée II Philadelphe, lui, il a envie. À Alexandrie, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une grande, qui est très célèbre, bibliothèque. Et Ptolémée II Philadelphe, il a envie que dans cette bibliothèque d'Alexandrie, il y ait pour la première fois une traduction de l'Ancien Testament qu'on appelle la version des Septante. Pourquoi Septante ? Parce que dans la tradition... ça aurait été traduit par 70 juifs spécialistes. Et donc, c'est la première fois que la parole de Dieu sera, donc ça va être en grec, c'est la première fois que la parole de Dieu va être dans une autre langue que dans l'hébreu, qu'elle sera traduite. Entre Ptolémée II et Ptolémée V, il y a des guerres avec, donc les Ptolémées, c'est la dynastie des Lagides, avec les Séleucides. Parce que les Séleucides, ils ont envie de s'emparer du royaume des Ptolémées. Et il va y avoir des guerres qui vont durer longtemps, et on appelle ça les guerres de Coélé-Syrie. Pour ceux qui ont fait de l'histoire, la guerre de Coélé-Syrie. Et comme Jérusalem sera au milieu, eh bien le temple va être très abîmé par ces guerres de Coël et Syrie. Donc les Séleucides vont prendre l'empire des Ptolémées et donc ils vont prendre Israël. Et là va arriver un homme de la dynastie des Séleucides qui s'appelle Antiochus IV Épiphane, tristement célèbre. On est en moins 175. Ça n'a pas passé. Voilà, ça va venir après. Antiochus IV Épiphane commence à exercer le pouvoir et il commence à se faire copain avec un empire qui monte et qui est très dangereux, c'est l'Empire romain. Il va se constituer à Jérusalem, sous Antiochus IV Épiphane, une division très importante au milieu des Juifs, entre les Juifs hellénistes, ce sont des Juifs qui ont envie d'adopter les mœurs grecques. Ils en ont marre de la Torah, la parole de Dieu. Ils sont influencés par les coutumes grecques, par le paganisme grec. Vous savez, quand on parle du paganisme grec, il ne faut pas oublier que c'est une civilisation brillante. On dit les païens, mais les païens, ce n'est pas les barbares. Hein. Les barbares, c'est les barbares. Mais la civilisation grecque est une civilisation païenne extrêmement brillante. D'ailleurs, l'Empire romain restera toujours séduit par l'Empire grec. Et d'ailleurs, même pendant l'Empire romain, la langue officielle sera toujours le grec. Le latin ne sera jamais très important. Ces Juifs sont donc influencés par les pratiques grecques, allant jusqu'à nier la Torah, la parole de Dieu, pour suivre les coutumes grecques. Ils veulent vivre à la manière des Grecs, ils se mettent au sport, et à l'époque, le sport, ça se fait tout nu. Et comme ils ont honte d'être circoncis, ils cherchent à cacher leur circoncision. Ce sont des Juifs qui sont en train de vraiment renier Dieu, de s'éloigner de Dieu, et de s'associer à Antiochus IV Épiphane, et qui vont essayer de lui faire plaisir et de lui plaire au maximum. Seulement, à l'opposé, vous avez des Juifs pieux, des Juifs religieux qui voient ça d'un très mauvais œil, qui rejettent l'hellénisme et qui vont amorcer un mouvement de révolte contre Antiochus IV Épiphane et contre les Juifs hellénistes. Et comme je vous disais, tout se passe bien tant qu'il n'y a pas de révolte. Et Antiochus IV, il rigole pas. La révolte sera stoppée, il y aura des massacres, il y aura une répression terrible, on est en moins 167. Division juifs pieux et juifs hellénistes, moins 67. Répression terrible, arrêt du culte, révolte et... Alors, arrêt du culte. Ils n'ont plus le droit de pratiquer le culte, ils n'ont plus le droit de faire circoncire les enfants, ils n'ont plus le droit de lire la parole de Dieu, de l'étudier. Et ça va être ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Antiochus IV va faire immoler un porc dans le temple. Qu'est-ce qu'on va trouver encore comme horreur ? Interdiction d'observer le sabbat, obligation de manger des mets interdits, donc tout ce qui n'est pas kasher. Le mot kasher veut dire conforme en hébreu. Le temple de Jérusalem est dédié à Zeus Olympien. Autorisation dans le temple de la prostitution sacrée dans le temple. Les Samaritains, tiens, on les retrouve. Les Samaritains, eux, ils ont envie de faire plaisir à Antiochus IV. Ils vont même demander eux-mêmes à ce que leur temple soit dédié. Ils vont demander à Antiochus. Ils sont quand même à moitié juifs, les Samaritains. Il y a des mélanges, mais ils sont à moitié juifs. Hein. Moitié. Ils vont demander à Antiochus que le temple soit dédié à Zeus. Et ils vont assurer à Antiochus, quatre Épiphanes, qu'ils vont suivre les mœurs grecques. Leur temple, il a été construit sous Alexandre III, Alexandre le Grand. Et il est où ce temple ? Sur le mont Garizim. Ça vous dit rien, ça ? Nos pères ont adoré sur ce mont Garizim. C'est ce fameux endroit où il y avait le temple des Samaritains, où il y avait un culte qui était un mélange d'idolâtrie et de culte à l'éternel. Et eux-mêmes, pour faire plaisir à Antiochus IV Épiphane, ont dit « Nous souhaitons que ce temple soit dédié à Zeus ». C'est un mélange donc d'adoration à Dieu et l'idolâtrie. Antiochus IV va mener une politique d'hellénisation. Il va essayer de s'appuyer même sur les Juifs hellénisants pour forcer les autres à adopter des mœurs grecques. Alors la division, elle va être terrible. Les persécutions seront terribles. Et à ce moment-là, le parti juif religieux, ils sont quand même importants, ils vont vouloir se révolter. Ils vont se révolter sous la direction d'un premier qui s'appelle Mattathias. Et son successeur, très connu pour ceux qui connaissent l'histoire, Judas Maccabée. Et on appelle ça la révolte des Maccabées. Eh oui. Et alors, le miracle, parce qu'on peut dire que c'est un miracle quelque part, parce que les Juifs, ça fait des années que ce ne sont plus des soldats, des guerriers, et ils ont en face d'eux les armées séleucides. Et ils vont gagner. Ils sont tellement pris par la hargne de Dieu et de vouloir vivre leur vie religieuse juive, ils vont gagner les armées séleucides. C'est un vrai miracle. Donc ils vont s'emparer du temple, ils vont le purifier et ça va donner lieu à une grande fête qui n'est pas vraiment dans la Bible mais qui est toujours fêtée par les Juifs, qui est très importante et qui s'appelle Hanouka. Hanouka, ça veut dire dédicace, du verbe lechaner, dédicacer. Hanouka veut dire dédicace. Et dites-moi, dans le Nouveau Testament, Jésus est allé à la fête de la dédicace. C'est Hanouka, c'est cette fête-là, qu'on appelle aussi la fête des Lumières. Et pourquoi on appelle ça la fête des Lumières ? Parce que dans la tradition juive, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il ne restait que très peu d'huile pour rallumer le chandelier du temple, la menorah. Or, pour la purification, il fallait 8 jours. Et ils avaient à peu près d'huile pour une journée. Et il fallait du temps pour refaire de l'huile. Et la tradition dit que le miracle, c'est que l'huile a duré 8 jours, jusqu'à ce que la nouvelle huile arrive. Donc voilà, ça c'est dans la tradition, c'est pas marqué dans la Bible, je peux pas vous garantir que ce soit vrai, mais c'est vraiment un fondement de la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Et d'ailleurs, à partir de là, alors ça aussi, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais on fête avec un chandelier qui n'est pas une menorah, chandelier à 7 branches, mais avec un chandelier à 8 branches, qu'on appelle une hanoukia, avec une 9e branche qui est devant, qu'on appelle le serviteur, et qui sert à allumer les 8 autres. La fête dure 8 jours, et chaque jour, on allume une bougie supplémentaire. Donc, premier jour, on allume une bougie. Deuxième jour, on allume la première, parce qu'on ne la laisse pas. Le deuxième jour, on allume la première et la deuxième. Troisième jour, la première, la deuxième, la troisième, etc. pour les 8 jours de la fête de Hanouka, donc fête de la dédicace à laquelle Jésus a assisté. Donc, cette révolte des Maccabées, elle va marcher. Mais ils ne sont pas quand même complètement débarrassés des séleucides. Les séleucides sont quand même encore là. Cependant, les Juifs vont créer, alors ça, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est très important, ils vont créer une dynastie de rois qu'on appelle les rois Hasmonéens, du nom d'un prédécesseur de Judas Maccabée qui s'appelait Hasmon. Et il va y avoir la dynastie des rois Hasmonéens. C'est-à-dire qu'en plein dans l'Empire séleucide, il va y avoir de nouveau une royauté juive. La succession de Judas Maccabée, parce qu'il va mourir au combat, ce sera son frère qui va la prendre, qui s'appelle Jonathan. Et puis Antiochus IV, heureusement, il va finir par mourir aussi. Et il va y avoir un successeur qui, lui, a compris qu'il faut calmer les choses. Et pour calmer les choses, il prend le roi Hasmonéen et il lui donne le titre de grand prêtre et ami du roi. Il s'est dit comme ça, on va arranger les choses. Et pendant un certain temps, comme ça, il y aura à la tête des Juifs un roi de la dynastie des rois Hasmonéens qui en plus vont recevoir de la part des Séleucides, il y en a celui qui est à la tête, va recevoir le titre de roi et de grand prêtre. Donc il y a une succession comme ça de rois. Et les Juifs vont profiter de la décadence des Séleucides. Parce qu'il y a une décadence des Séleucides. Et pourquoi y a-t-il une décadence des Séleucides ? Parce qu'il y a un empire encore plus puissant qui est en train de monter, et c'est l'empire romain. Eh oui. Alors, sous la dynastie d'un certain roi asmonéen qui s'appelait Jean Hyrcan, prêtre, ami du roi des Séleucides, etc., lui, il va prendre la décision de détruire, d'attaquer les Samaritains, et il va détruire le temple qui est sur le mont Garizim. Alors il faut s'imaginer que pour les Samaritains, ce temple, il était quand même important. Il était quasiment aussi important que le temple de Salomon, enfin reconstruit, c'est plus celui de Salomon. Et Hyrcan II, roi asmonéen, va le détruire. Ce qui fait que quand la Samaritaine dit à Jésus « Nos pères ont adoré sur cette montagne », elle parle du mont Garizim sur lequel il n'y a plus le temple qui a été détruit par les Juifs. Et ça, ça ne fait pas des bonnes relations, d'autant plus que les Samaritains avaient quand même dit à Antiochus IV Épiphane, « Nous sommes avec toi et nous voulons que notre temple soit aussi dédié à Zeus. » Vous imaginez les relations que ça a pu mettre entre les Samaritains et les Juifs. Il est possible que ce soit à cette époque-là que se soit constitué ce qu'on appelle le groupe des Esséniens. Pourquoi ? Les Esséniens, ils aspirent à ce qui est juste, à ce qui est pur. D'ailleurs, leur dirigeant s'appelle le maître de justice, parce que ça leur plaît pas tellement que le grand prêtre soit nommé par les Séleucides. Parce que le grand prêtre, il doit descendre à Aaron pour exercer dans le temple, pour être officiel. Et ce n'est pas aux Séleucides de dire qui est grand prêtre. Ce qui fait que du temps de Jésus, le souverain sacrificateur, le responsable, il n'est pas un souverain sacrificateur reconnu, descendant d'Aaron. C'est pour ça que les Esséniens ne veulent rien savoir du culte qui se déroule dans le temple. Alors certains, bien sûr, n'étaient pas du tout d'accord, et notamment les Esséniens. Les Juifs, qui sont hellénisants, parce qu'il y en a encore, ils vont essayer de faire appel aux Séleucides pour vaincre les rois asmonéens, donc les rois qui sont avec les juifs religieux. Parce que les rois asmonéens, ils sont à la tête des juifs religieux qui ont gagné. Les juifs qui ont hellénisé, qui sont contre les juifs religieux, vont demander aux Séleucides, vont s'allier officiellement aux Séleucides, qui sont encore là, même affaiblis, mais ils sont encore là, de vaincre le roi asmonéen qui s'appelle Alexandre Janet à cette époque-là. Mais le roi Séleucide, qui s'appelle à l'époque Démétrios III, n'a pas tellement envie de se mêler de cette histoire. À sa mort de Démétrios III, le royaume juif, le royaume asmonéen, comprend la Galilée, la Samarie, la Judée et l'Idumée. Alors ça, c'est l'Empire romain. Donc tout ce qui est en marron, c'est l'Empire romain, qui est énorme, hein. Ça, on va voir après. Non. Voilà. Ça va venir. OK. Ça va, c'est pas trop dur ? C'est chaud, hein, ce soir. Hein, vous n'avez pas l'habitude avec ça. Hein, on n'est pas des historiens d'habitude. Hein. C'est le moment du grand déclin de la dynastie des Séleucides et des Grecs en général. Et Rome commence à prendre de l'importance. Ils ont compris que c'est mieux de s'allier aux Juifs, au moins pour un temps, pour ne pas avoir d'histoire. Et ils vont, disons, en quelque sorte, s'arranger. Et ils vont placer eux-mêmes des gens à la tête de la dynastie des rois asmonéens, mais des gens sur qui ils ont la main mise pour être sûr que tout se passe bien. On va trouver un certain Aristobule, etc. Alors, en moins 63, il y a un grand conquérant romain qui se lève, et qui s'appelle Pompée. Il déclare la Syrie province romaine, il entre à Jérusalem, il s'empare de l'Asie mineure, de l'Égypte, il établit Hyrcan II comme roi, mais il a la main dessus, il fait exprès de choisir quelqu'un de faible, comme ça il peut commander en même temps, tout en faisant plaisir aux Juifs, de ce qu'ils ont toujours un roi asmonéen à leur tête. Mais ça va quand même accélérer le déclin de cette dynastie des rois asmonéens. Il faut dire que ces rois asmonéens, ils ont obligé l'Idumée, alors l'Idumée fait partie donc du royaume des rois asmonéens, ils ont obligé les Iduméens à judaïser. Et ça, ça n'a pas beaucoup plu aux Iduméens. Et il se trouve qu'un peu plus tard, on va en parler, il y en a un qui vient de l'Idumée judaïsée de force, et ce quelqu'un, il s'appelle Hérode. Là, on n'est plus très loin de Jésus. Hein. Donc, Hyrcan II a pratiquement donné le pouvoir à Rome en Palestine, même s'il est encore là. À Rome, il y a une opposition terrible pour le pouvoir entre Pompée et Jules César. Pompée est assassiné, comme ça, Jules César, il est vainqueur. Sauf que Jules César va être assassiné aussi, et c'est son neveu qui lui succède, César Octave, appelé aussi César Auguste. Donc Pompée assassiné, Jules César assassiné, c'est César Auguste qui règne. César Auguste va laisser la charge aussi à Hyrcan II de dominer, mais il va nommer quand même un homme donc d'origine iduméenne, et les iduméens n'aiment pas les juifs. Ce premier s'appelle Antipater, mais son successeur, c'est Hérode. Hérode le Grand. C'est lui qui gouverne quand Jésus arrive. C'est lui qui va faire tuer tous les bébés pour essayer de tuer Jésus. Hein. C'est Hérode le Grand. Hérode le Grand, il n'est pas romain, mais il est à fond pour les Romains. Il a envie surtout de monter et il a compris que s'il veut avoir du pouvoir et de l'importance, il faut être copain avec les Romains. Et la dynastie des rois asmonéens va commencer à décliner. Hérode le Grand, il donne pleine satisfaction à Rome, mais il est toujours quand même de la dynastie des asmonéens parce que l'Idumée fait partie du royaume des rois asmonéens. En moins de 39, il reçoit même, Hérode, la citoyenneté romaine en récompense. Et il gouverne sur la Judée, la Samarie, l'Idumée, la Galilée. Il est connu comme étant un homme cruel, mais il va quand même se faire bien voir des Juifs en réparant le temple qui, encore une fois, est abîmé. C'est pour ça que des fois, on appelle à ce moment-là le temple d'Hérode. On dit le temple d'Hérode, mais bon. Alors, c'est le temple de Néhémie Esdras, c'est le second temple. Mais il a été abîmé dans les guerres de Coël et Syrie, il a été réparé, re-abîmé par des guerres. Et Hérode, il s'est dit, je vais refaire le temple beau et les Juifs seront contents, ils seront contents de moi. Et comme ça, ça ira mieux. Mais lui, il se lie au paganisme, il est à fond avec Rome. À la mort de Hérode le Grand, César Auguste ne va pas mettre à la place de Hérode le Grand un homme, mais il va en mettre quatre. Et c'est à partir de là qu'on va appeler ça, sur chaque partie, des tétrarchies. Et que celui qui dirige est un tétrarque. Tétra, ça veut dire quatre. Et vous avez sûrement entendu parler dans la Bible de Hérode le Tétrarque. Hérode le Tétrarque est un des quatre qui succède à Hérode le Grand. Vous avez Hérode Antipas, qui s'appelle Hérode le Tétrarque. Vous avez Hérode Philippe. Vous avez Archélaos et Lysanias. Archélaos est sur la Judée, l'Idumée la Samarie. Il est cruel et il va être relevé de ses fonctions. Donc il est sur la Judée, la Samarie, l'Idumée, il est relevé de ses fonctions parce qu'il est trop cruel. Pour que Rome relève quelqu'un qui est trop cruel, ça devait vraiment aller mal. Et il va nommer, à la place d'Archélaos, pour la première fois, ce qu'on appelle un préfet procurateur romain. Et ça va être Pilate. Eh oui, Ponce Pilate. À partir de là, donc, Rome nomme sur chaque tétrarchie quelqu'un. Et bien sûr que Pilate, il est chargé de réprimer toute révolte pour que tout se passe bien, parce que à Rome, il faut qu'on entende dire que celui qui gouverne en Judée, ça se passe bien. C'est pour ça que quand il y a une espèce d'agitation autour d'un certain Jésus, lui, Pilate, son problème, c'est qu'on n'entende pas dire à Rome que là où Pilate gouverne, c'est la pagaille. Hérode Antipas, il est, on le trouve dans Luc 23, 1 à 12, il est sur la Pérée, et c'est lui qui va faire exécuter Jean-Baptiste. Hérode Philippe, qui est sur d'autres parties, la Golanitide, je ne sais pas si... Voilà. Hérode Philippe, il est sur la partie marron en haut à droite. Donc là, vous avez les tétrarchies. Et puis, vous avez un passage qui s'appelle, un endroit là en bleu qui s'appelle la Décapole. Il est parlé de la Décapole. Ce sont 10 villes grecques, la Décapole, qui sont là en plein milieu. Alors, c'est une période qui va être marquée par des soulèvements de gens qui se prétendent être le Messie. Comme un certain Judas de Gamala, dit le Galiléen, qui appelle à la révolte, et ça va mal se terminer, évidemment. Chaque chef de révolte, on espère que ce soit le Messie qui va délivrer les Juifs des Romains. Donc à chaque fois qu'il y en a un à la tête d'une révolte, on espère qu'il est le Messie. Ce ferment de révolte va grandir, surtout depuis la mort de Hérode le Grand, et ça va aboutir à une grande, grande révolte en 66. Donc là, Jésus est déjà mort. Hein ? Bon. Oui. C'est pas ça. Ben ça a dû sauter tout d'un coup. J'ai appuyé 4 fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai presque fini, c'est pas grave. Oui, et après, voilà. Il y a ça. Bon, on peut passer à la suivante. Non, il n'y est pas. Alors, ce qu'on a vu, là, c'est l'Asie mineure où Paul va évangéliser plus tard, hein, la dernière. Voilà. Là, vous avez l'Asie mineure qui comprend la Turquie, etc. Voilà. OK, merci. En 66, il va y avoir vraiment une grande révolte. Les Romains vont être victimes d'attentats commis par des extrémistes, ce qu'on appelle les zélotes, et aussi les sicaires. Les sicaires, on les appelle comme ça parce qu'ils ont une arme blanche qui s'appelle une sica, qui est une espèce de couteau recourbé. En fait, ce sont un peu les terroristes de l'époque et il y aura des assassinats. L'agitation, toute cette agitation est nourrie bien sûr d'une espérance messianique. Il y aura une très grosse insurrection qui va éclater en 68 à Césarée, c'est un port, Césarée, le port de Césarée, et à Jérusalem. Il faut dire qu'il y a un certain Flaccus, procurateur romain, qui commet pas mal d'injustices. Et à Alexandrie aussi, les troubles éclatent et il y aura des répressions terribles. En 66, l'armée romaine se met en campagne avec à sa tête un certain Vespasien qui se voit confier la campagne par Néron. Et Néron, il est tristement célèbre. Donc Néron confie la contre-révolte à Vespasien. Il est à la tête de 3 légions, dont l'une est commandée par Titus, bien sûr, aidé par d'autres cohortes. Il est à la tête, il arrive à la tête de 50 000 hommes. Ce n'est pas une mince affaire, hein. Et le siège commence au début des années 70. L'assaut final est donné vers août 70. Le 30 août 70, le temple est brûlé. Jérusalem est incendiée complètement. C'est l'époque où la menorah, les trompettes, tout est emporté à Rome. Et on connaît ces fameuses images de défilés à Rome avec la menorah, hein, c'est célèbre. Il en existe encore des virulents qui vont vouloir continuer, qui vont se réfugier à Masada. Si certains ont été en Israël, vous avez été peut-être voir Masada, enfin les ruines. Et là, ça va très mal se terminer. Et plutôt que de se laisser prendre, la plupart des Juifs vont se suicider et sauter des murailles. Donc ça, c'est en 73. À partir de là, la Palestine, on n'appelle pas... Alors, Israël devient la Palestine à ce moment-là. C'est une punition, en quelque sorte, des Romains que d'appeler Israël la Palestine pour dire Israël, c'est fini. Mais le mot Palestine a été inventé, alors ça vient des Philistins, a été inventé par les Romains pour punir les Juifs. Mais c'est... En fait, la Palestine, c'est Israël. C'est la disparition du Sanhédrin, c'est la disparition du judaïsme organisé, je dirais. Il y a d'autres révoltes qui seront réprimées, mais bon, tout ça, ça va être vite terminé. Destruction du temple qui est considérée par les Juifs comme un signe des temps de la fin et l'espérance que le Messie va venir. Quelques années plus tard, en 132, donc à peu près 60 ans plus tard, il y a un certain, on a presque fini, hein, rassurez-vous, il y a un certain Bar Kozhiba, qu'on dit aussi Bar Kochba, qui va se prendre pour le Messie. Et en plus, le sacrificateur de l'époque, au moins celui qui est le plus haut placé au niveau religieux, appuie cela et prend lui aussi Bar Kozhiba pour le Messie, donc il va entraîner tout le monde. Ça va se terminer dans un bain de sang. Les Romains vont engager quand même des forces considérables. Bar Kozhiba est tué. Jérusalem est interdite aux Juifs. Interdite, carrément. Seul va survivre, et c'est grâce à ça qu'Israël existe aujourd'hui, des petits groupes religieux tenus par les pharisiens. Mais pas à Jérusalem, en dehors et puis dans la diaspora. Et c'est le début vraiment du judaïsme pharisien par le biais d'écoles juives qui vont subsister. La loi orale, toutes les traditions orales de la religion vont être mises par écrit et ça va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le Talmud. Le Talmud qui est fait à partir de ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, la Mishnah et la Gemara. Par la suite vont se rajouter deux grandes écoles qui sont plutôt de type ésotérique, voire même occulte. C'est la Kabbale et le Zohar, qui font partie quand même de la tradition juive tout à fait intégrée. Donc tout ça, la Mishnah, le Talmud, tout ça, ça va être lié à la religion, à la parole de Dieu, à l'Ancien Testament. Et ce sont les pharisiens qui vont survivre à tout ça et qui vont diriger tout ça. Les Sadducéens, on n'en parlera plus. Alors ça va permettre aux Juifs, dans le monde entier, parce qu'il y aura la dispersion, la diaspora partout, au travers des siècles, de conserver leur spécificité, de rester des Juifs. C'est pour ça qu'après 2000 ans, il y a encore des Juifs, on sait encore qui, à peu près, pas tous, parce qu'il y en a bien sûr, avec les mélanges, tout ça, ça s'est perdu. Et on arrive à savoir à peu près qui est Juif, parce que les traditions... issus de la parole de Dieu et de la tradition orale, le Talmud en particulier, eh bien, ça aura créé un ciment entre eux, ce qui a permis au travers de ces 2000 ans de savoir qui est juif et qui ne l'est pas. Le plus grand danger pour la population juive, ce n'est pas seulement la diaspora, mais c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est ce qui aurait pu faire que le peuple juif disparaisse complètement. Mais ça ne pouvait pas arriver, parce que Dieu avait déjà dit bien avant qu'il rassemblerait son peuple en Israël. Donc si le peuple avait été, il y en a eu certainement, mais si le peuple avait été totalement assimilé, il serait impossible aujourd'hui de savoir qui est juif et de savoir qui faire rentrer en Israël. C'est ce qui permettra donc aux juifs dans le monde entier de traverser des siècles. Et ce qui va faire aussi, malheureusement, qu'ils vont souvent être entre eux et pas trop mélangés, c'est la persécution. Parce que quand une population est persécutée, vous n'avez pas tellement envie d'être au milieu d'eux et d'être confondu avec eux. Eh oui. Ma mère me disait par exemple que quand les persécutions ont commencé en Autriche, du jour au lendemain, il y avait des copines qui n'étaient plus ses copines. Jusqu'à là, ça posait pas de problème d'être juif, mais tout d'un coup, c'était un problème. Parce que dès qu'il y a l'antisémitisme, clac. Et oui, ça crée la séparation. Et ce n'est que depuis 1948 que le peuple juif revient progressivement sur sa terre. Demain soir, on va parler de la suite. Parce qu'en fait, pendant 2000 ans, il n'y a plus d'histoire d'Israël. Il y a des petits groupes un peu partout qui continuent leur religion. L'hébreu subsiste grâce à la religion. Il n'y a que l'hébreu biblique, il n'y a que l'hébreu parlé à la synagogue, il n'y a rien d'autre. Et il y a bien sûr toutes les traditions, avec ce qui s'est rajouté, ce qui s'est modifié. Et donc demain soir, on va parler de l'Israël moderne, comment on en est arrivé à la création de l'État d'Israël en 1948 et comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Donc en quelque sorte, c'est la suite. Maintenant, je vais arrêter parce qu'il va être déjà assez tard. 8h moins 10, ouais. Il y a beaucoup de thèmes qu'on pourrait aborder et qu'on peut comprendre beaucoup mieux à partir de la connaissance de l'histoire. Je termine par là, mais la crucifixion, c'est important, mais la crucifixion, elle est dans un contexte historique, religieux, politique, etc. La crucifixion, elle a un sens. Ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, la crucifixion, ça nous paraîtrait même pas possible. Mais la crucifixion, elle est dans un contexte de l'époque. Et c'est un contexte historique, politique, religieux, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, les juifs religieux, pour se venger à un moment donné des juifs hellénistes qui s'étaient associés aux Grecs pour attaquer les juifs religieux ont gagné. Et pour se venger, ils ont fait crucifier 800 juifs hellénistes. Donc c'était quelque chose qui était bien connu à l'époque. Ça nous aide, bien sûr, tout ça, à beaucoup mieux comprendre, je ne vais pas le faire ce soir, toute l'histoire de Daniel, la petite corne, la grande corne, les quatre cornes, etc. Hein, d'où ça, c'est ça. Le problème des Samaritains, d'où ça vient, cette histoire d'opposition, ça, on l'a vu quand même. Les communautés de la diaspora, comment ça se passe dans la diaspora? Comment que ça se fait que l'apôtre Paul, partout où il va, il commence par prêcher dans une synagogue? Il arrive à Rome, il va à la synagogue, il arrive à Éphèse, partout où il va. Comprendre aussi la pensée grecque, qui a une très forte influence, la pensée grecque, hein, pour comprendre le contexte aussi de l'époque. Voilà. Les rapports entre les juifs, les chrétiens. Les chrétiens d'origine juive, et les chrétiens d'origine païenne. Ce n'est pas la même chose. Tout ça, ça crée des rapports. Voilà, et puis comprendre pourquoi c'est le bon moment pour la mort de Jésus. Enfin, le bon moment, entre guillemets. Ça va, vous n'êtes pas mort? Je ne vous ai pas tué? Atemlo Ayefim, vous n'êtes pas fatigué? Non? Alors, bon, si vous n'êtes pas fatigué, Mamchirim, on continue. Hein. Oui? Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué, Yesh Elot, il y a des questions? Il y a une question. Je n'ai pas réponse à tout. Hein. Je ne suis pas Rabbi Google. Oui. 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 Qu'est-ce qu'a fait la scission entre frères? Alors, c'est l'histoire avec Roboam et Jéroboam. Et il n'y a que... Pourquoi ils se sont séparés, Judas et Israël? Oui. Alors, vous l'avez dans la parole. C'est l'histoire du comportement, du mauvais comportement de Roboam. On le trouve dans la parole de Dieu. Roboam va avoir des paroles très dures vis-à-vis des Juifs. Ça va beaucoup déplaire aux Juifs. Et donc, beaucoup vont vouloir rejoindre Jéroboam. Il n'y a que Judas et Benjamin qui restent du côté de Roboam. Mais on le trouve, hein, c'est marqué dans la parole de Dieu, juste après la mort de Salomon, comment Roboam va parler aux Juifs de manière très négative. Et ça va beaucoup déplaire aux Juifs, ce qu'il va dire. D'ailleurs, les sages lui avaient déconseillé de parler comme ça. Il ne va pas les écouter. Ils sont tous Juifs, oui. Mais la plupart n'ont pas voulu suivre Roboam. Ils ont préféré suivre Jéroboam. Alors Jéroboam a peut-être un discours meilleur, mais sur le plan spirituel, c'était pas ça.
La deuxième question, c'est pourquoi
Oui. C'est vrai qu'il n'est pas question de toute cette. La parole de Dieu, entre guillemets, tout ce qui est prophétique et autres, se termine avant cette période. Il y a tout un vide entre la fin de Malachie, par exemple, et l'arrivée de Jésus. Il y a tout un temps. Et sur ce temps, sur cette période, on n'a rien dans la parole de Dieu. Pardon? Voilà. Pourquoi? Parce que, certainement, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. Certainement que Dieu a estimé que sur le plan spirituel, il n'y avait rien d'important. D'ailleurs, les livres des Maccabées existent dans la Bible de Jérusalem, la Bible catholique. Vous avez les livres des Maccabées. Ça ne veut pas dire que ces livres soient faux, mais ça veut dire qu'il ne faut pas en tirer des enseignements spirituels parce qu'ils ne sont pas reconnus comme étant spirituels. Parce qu'il faut faire quand même une. Comme je disais, la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire. Si ça représente un intérêt spirituel, la Bible en parle. Si ça ne représente pas un intérêt spirituel, la Bible n'en parle pas. Oui. Oui. Mais parce que dans la Bible de Jérusalem, il y a ce qu'on appelle les livres apocryphes. Il n'y a pas que les Maccabées, hein. Le livre de Judith, le livre de Tobie, le livre, le Siracide, voilà. Et en plus, ce sont des livres qui ont été rajoutés par l'Église catholique dans le canon des Juifs, dans l'Ancienne Alliance. Alors ça ne leur a pas beaucoup plu, hein, parce que si les catholiques commencent à toucher à l'Ancien Testament, ça ne va pas, hein. Moi, je crois que simplement, ce sont des livres alors, qu'il faut pas, qu'on peut lire, mais il ne faut pas en tirer un enseignement, chercher à en tirer un enseignement spirituel. Parce qu'ils ne sont pas reconnus comme faisant partie du canon des Écritures. Maintenant, comme je l'ai dit aussi, si on s'intéresse vraiment à l'histoire d'Israël, il y a des livres aujourd'hui qui sont très bien faits. En général, ils sont comme ça, hein. Parce que l'histoire d'Israël, elle est compliquée. Mais ce sont des livres écrits par des historiens dans le but de nous faire connaître l'histoire. Là, ce n'est pas dans le but spirituel. Ce qui fait que ça a son intérêt, bien sûr. Mais c'est vraiment historique. Alors, des fois, c'est un peu. Parce que là, je ne vous ai pas tout fait. Hein. Oui. Mais c'est Israël. Qui ont donné à Israël le nom de Palestine. C'était une punition. Oui. Oui. Alors, les territoires qu'on appelle aujourd'hui les territoires palestiniens sont une partie d'Israël telle que Josué les a conquis. Par exemple, la bande de Gaza. Gaza a été conquis par Josué. Et Gaza devrait faire partie. Vous avez Bethléem, là où Jésus est né. Bethléem est en territoire palestinien aujourd'hui. Hein. Alors c'est ça, après il y a toute une histoire politique là-dessus. Hein. Mais normalement, ça fait partie d'Israël. Ah, oui. Oui. Alors, en principe, les Juifs qu'on connaît aujourd'hui, la plupart font partie tous de la tribu de Judas et Benjamin. Enfin, c'est surtout Judas. Voilà. Parce que, alors, il y a quelques tribus qui n'en font pas partie. On en parlera un petit peu demain. Notamment ceux qui ont été retrouvés en Éthiopie, des choses comme ça, les Falachas et autres. Il y a probablement encore aujourd'hui des tribus qui n'ont pas été retrouvées. Mais ceux qui sont restés connus au travers des siècles, qui sont soit issus de l'Espagne, qui sont devenus ce qu'on appelle les Séfarades et qui sont allés sur l'Afrique du Nord ensuite, hein, Algérie, Tunisie, Maroc, soit les Juifs qu'on connaît bien, qui étaient en Europe centrale, Allemagne, Autriche, Yougoslavie, Pologne et autres, sont de l'origine de la tribu de Juda. Parce qu'en fait, quand il y a eu les Juifs qui sont rentrés après les 70 ans, c'est que ceux de Juda et Benjamin. Les 10 autres tribus du Nord qui avaient été dispersées ne sont pas revenues. Ce n'est pas eux qui sont revenus. Donc ils ont continué à se disperser, et les traces